Boker Tov à tous, Bezrat Hashem, on commence aujourd'hui un cours qui va parler de Pessah, un peu comme ça avec des chidushim du Rabbi sur la Haggadah, et en plus de ça on se prépare à Yud Alef Nissan. Jeudi soir c'est Yud Alef Nissan, la naissance du Rabbi de Lubavitch, une grande date chez les Chabad, le jour où tout a commencé en réalité, au Hashem, le Rabbi est né Yud Alef Nissan, le 11 Nissan. Donc jeudi soir Bezrat Hashem.
Le dernier.
Ok, ouais. Le Rabbi de Lubavitch qu'on connaît tous, ok. Alors comme ça, pour commencer sur l'union de la Haggadah, on sait que la Haggadah et Pessah, Bichlal, ils ont plusieurs noms. Un des noms qu'on donne à Pessah, c'est ce qui s'appelle Chag Ha'aviv. D'accord ? Pourquoi le Chag Pessah, il s'appelle Chag Ha'aviv ? Tout simplement, Alpi Pshat, parce que ça se passe pendant le printemps. D'après Rashi, selon Rashi, pourquoi Bémet HaKadosh Baruch Hu, il a fait qu'on est sorti d'Égypte pendant le printemps. On aurait pu sortir pendant l'hiver, on aurait pu sortir en été. Rashi, il vient, il nous dit tout simplement, Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que les Bnei Israël galèrent dans le désert. C'est un peu rikik de sortir avec des écharpes, des manteaux et des parapluies. Si on était en été, c'est aussi un peu rikik de sortir avec des parasols. Donc il a pris la meilleure période pour les Bnei Israël, tellement il aime les Bnei Israël. Il les a fait sortir au meilleur moment où le temps est le plus respectable pour toute une nation comme ça qui sortirait dans le désert. Ça, c'est d'après Rashi. D'après les Nyanim un peu plus profonds, on sait que Paro, il avait une croyance dans les dieux idolâtres. Il était donc idolâtre lui-même. Et il avait une croyance dans ce qui s'appelle la nature, les forces de la nature. Et Hachem, il a voulu enseigner à Paro tout simplement que je l'ai fait sortir au printemps. Pourquoi ? Parce que le printemps, c'est une période où la nature est en plein développement. S'il les avait sortis, il les avait fait sortir par exemple en hiver, Paro il aurait pu croire que Hachem il a attendu que la nature soit faible, ouais, que la nature soit au repos pour pouvoir les faire sortir. Donc pour lui montrer sa force, il a fait ça. La Chassidoute elle vient hein, et elle nous donne une explication extraordinaire. La Chassidoute elle nous dit comme ça, qu'en réalité Hachem il a voulu donner un messer au Béné Israël qui allait sortir à ce moment même. C'est quoi la différence entre l'hiver et le printemps? En hiver, tout est recouvert, soit par de la boue, soit par de la neige, soit par de la pluie. On ne voit pas la nature, elle est cachée. Quand le printemps il arrive, d'un coup, on voit que tout recommence à fleurir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait Birkat Ha'ilanot Nachon sur la floraison. Et le Rabbi il vient, il nous dit, Hachem, il a voulu enseigner au Béné Israël que dans la vie, il va avoir des moments où tu te sens en hiver. Tu sens que tu es caché, tu sens que ça ne marche pas comme tu veux. Ça pousse pas comme tu veux, ça grandit pas comme tu veux. Tu peux faire des efforts dans la parnassa, c'est pas ce que tu espérais, dans l'éducation des enfants, dans ton shalom bayit. Et des fois, cette période-là, elle peut faire croire à un homme que c'est chlet, que c'est foutu. Hachem, il a voulu dire au Béné Israël, cette période-là, c'est pas un moment pour te faire du mal, chas de shalom. C'est un moment de repos. Qu'est-ce qu'elle fait la nature à ce moment-là? Elle se repose pour mieux repousser. Donc même nous, quand dans notre vie, on voit des périodes qui sont un peu fatigantes, ouais, un peu en mode repos, et on ne sait pas si on va bien mettre s'en sortir, il faut toujours savoir que tu as le, juste après qui arrive, le Aviv, Chag Pessah, et c'est exactement pareil, le Rabbi nous dit par rapport à la galoute qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un moment de choref, ouais, c'est un moment de tempête, d'ester, de nuages, de froideur, on ne voit pas tout ce que Hachem il aimerait qu'on puisse voir. Et Hachem, il te dit, quand tu sais que tu as la Imouna, que tout de suite après arrive le printemps, le Chag Ha'aviv, alors tu sors Bezrat Hashem Besimcha. Donc c'est pour ça que le Chag Pessah, il s'appelle aussi Chag Ha'aviv. Maintenant, il y a un yen, mais autre manienne. Le Chag Pessah, il s'appelle aussi Zman Chirutenu. Ouais, c'est quoi Zman Chirutenu? Le moment de notre délivrance, de notre libération. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit lui-même que je vous ai libéré des mains de Paro pour que vous deveniez mes serviteurs à moi. Donc en fait, tu m'as libéré d'une prison à une autre. D'un endroit peut-être un peu mieux, plus sympathique. Mais si tu ne me libères pas complètement. Donc en réalité, ça ne s'appelle pas un Zman Chirut, un Zman de délivrance. Et là, le Rabbi explique quelque chose. Il dit, c'est quoi la délivrance d'un homme? Où se cache la délivrance d'un homme? Par exemple, on prend le domaine du Tsomer, le domaine du végétal. Le végétal, pour pouvoir pousser, grandir, il a besoin d'amour et d'eau fraîche. Hein, il a besoin de soleil. Il a besoin d'eau. Si tu lui caches, tu lui mets des limites par rapport à cette influence-là, il va avoir du mal à pousser, il va même peut-être mourir. Par contre, il est statique, il ne bouge pas. Mais lui, dès que tu lui as donné son soleil et son eau, il commence à fleurir, il commence à pousser. Pour lui déjà, hein, c'est sa Géoula. Maintenant, tu prends le monde, le domaine de l'animal. C'est Maod Manien, parce que le domaine de l'animal, il a besoin de manger, boire pour grandir. Mais si tu l'empêches de bouger, tu le mets dans une cage, à ce moment-là, il ne s'appelle plus libre. Pourtant, tu lui as donné ce qu'il faut pour grandir, mais tu l'as empêché de bouger. À ce moment-là, en fait, la Géoula, et ça, c'est très important pour nous-mêmes aussi, on va voir la différence avec l'homme, la Géoula, c'est le moment où tu commences à grandir. C'est le moment où tu commences à t'épanouir. La galoute, ouais, c'est tout le contraire. C'est le moment où tu n'arrives plus à pousser comme tu aimerais pousser. Quand on arrive au domaine de l'homme, l'homme pareil, faut lui donner à manger, faut lui donner à boire, faut le laisser se déplacer. S'il n'y a pas ces conditions-là, déjà, il se sent enfermé. Mais si tu lui donnes ces trois conditions, donc comme dans le domaine animal, on voit qu'on va en augmentant, mais que tu ne lui donnes pas la possibilité de l'homme, de l'éarkim, l'homme a besoin d'apprendre. Un homme qui n'apprend pas, à ce moment-là, il se sent en prison. Je parle pour l'humanité entière. D'ailleurs, Derech Agav, si aujourd'hui ils annoncent que 70% de la population va avoir besoin d'un tipoul, ouais, psychologique dans les années à venir, 70% du monde, peut-être plus, ouais, c'est selon les statistiques, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que d'un côté, on nous vend qu'aujourd'hui, le monde n'a jamais été aussi libre que ça. Et que tu peux te balader de partout grâce à Internet. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu prends le petit bonhomme de Google et tu avances et tu vois ce qu'il y a là-bas sans prendre l'avion. Et tu as l'impression que tu es libre en réalité. D'un autre côté, on nous raconte tellement de bêtises dedans. C'est-à-dire que les vidéos qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun torrent, ça t'empêche d'apprendre et de grandir dans ta vie. C'est pour ça que l'homme a l'impression d'être enfermé. Pourtant, on t'a laissé la possibilité d'aller partout dans le monde où tu veux. Mais il se sent à ce moment-là en prison parce qu'il n'arrive pas à apprendre, il n'arrive pas à grandir. Alors, je ne dis pas, il y a des gens, Baruch HaShem, ils utilisent ça à bon escient. Et grâce à ce Kelly-là, grâce à cette Internet et le téléphone, il apprend beaucoup de choses. Cette personne-là, il aura un peu la possibilité de ressentir un petit peu la liberté. Mais malheureusement, la plupart aujourd'hui, on voit de la jeunesse, des jeunes, des adolescents, tout ça. Ils n'utilisent pas ça pour grandir, ils utilisent ça pour voir des vidéos. Il n'y a que de la musique, des gens qui plongent dans de l'eau, aux Maldives, rouler, ouais. Et lui, ça lui fait croire qu'il y a des belles choses dans le monde, mais à la fin, il se sent frustré de ne pas être là-bas. Donc en réalité, à leur avis, il dit qu'à partir du moment où un homme n'a pas la capacité et la possibilité d'apprendre, il ne s'appelle pas Ben Chorin, il ne s'appelle pas libre. Et on arrive au Am Israël, ceux qui ont une Neshama. Donc, Am Israël, bien sûr qu'il a besoin à manger, à boire, de pouvoir se déplacer, de pouvoir d'apprendre, mais surtout, à partir du moment où tu as une Neshama, de faire Torah en Mitzvot. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que combien même on va te donner toutes ces conditions-là, comme tout le monde, avec aussi la possibilité d'apprendre, mais tu ne te mets pas dans un mode Torah en Mitzvot, c'est à ce moment-là que tu vas te sentir en prison. Et c'est très important parce que dans notre vie, des fois, on est gum-gum, on n'est pas bien, on n'est pas heureux. On n'arrive pas à être Bessimcha parce qu'on sent qu'il y a un manque à l'intérieur de nous et on ne sait pas par où il est ce manque. Donc on essaye soit de trouver des fautifs, ouais, des cobayes par rapport à qui je vais m'en prendre parce que je n'arrive pas à être dévoué et développé comme j'aimerais être dans ma vie. Et en réalité, le Rabbi t'explique tout simplement qu'à partir du moment où tu n'as pas donné à tes Neshama la kamout, la quantité de Torah au Mitzvot, tu peux dire je fais Torah au Mitzvot et pourtant je ne me sens encore pas libre. Tout simplement, si tu es dans ce cas-là, c'est la preuve que ton keli, donc ta neshama, ton réceptacle, demande beaucoup plus. Donc en fait, par le fait que tu n'étudies pas le nombre d'heures ou que tu ne réalises pas le nombre de mitzvot que tu devrais réaliser, c'est à ce moment-là que tu t'appelles, ouais, en galoute. Et ça, c'est ce que le rabbi veut nous apprendre. Vous savez, une fois, j'avais raconté qu'il y avait une femme qui avait écrit une lettre au rabbi, qu'elle était malheureuse, qu'elle n'était pas bien, qu'elle sentait que sa vie était vide de torrent, qu'elle se pose la question pourquoi elle est là dans ce monde, à quoi bon, à quoi ça sert d'être ici. Ouais. Il y a beaucoup qui se posent cette question. Bon, il y en a qui sont devenus des robots, ils vivent leur vie. Et c'est la fameuse phrase, c'est la vie. Ouais. Je me laisse traîner par la vie. Mais il n'y a rien à l'intérieur qui le fait vibrer réellement. Et le rabbi lui dit comme ça. Qu'en réalité, un homme, pour qu'il se sente heureux, il faut qu'il soit même à mèche son potentiel. c'est qu'il utilise le potentiel qu'il a à l'intérieur de lui. Et le rabbi lui donne un machal extraordinaire. Il dit, si par exemple quelqu'un il fait des études pendant des années pour devenir docteur, chirurgien, ouais, et qu'à la fin il reçoit son diplôme, il ne trouve pas de métier, il ne trouve pas d'endroit où travailler, et il termine caissier à Carrefour. Ouais. Chaque article qui va passer à Carrefour, ouais, à chaque fois qu'il va entendre « tut-tut », ouais. Comment il se sent? Il se sent frustré. Mais qu'est-ce que je fais là? Et l'autre qui dit, ouais, c'est quoi le prix? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Hein, rendez-moi la monnaie. Vous m'avez pas rendu la monnaie. Je vous ai rendu la monnaie. Mais qu'est-ce que je fais là? Moi, à la base, moi, je suis chirurgien. Est-ce que ça veut dire qu'un caissier, chas v'shalom, il y a pas de sous-métier, que c'est pas bien? Celui qui doit être caissier, que c'est son tafkid, c'est son rôle, et ben lui, il se sentira bien dans son métier. Mais celui qui ne se sent pas à sa place, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à souffrir à l'intérieur de lui. Et pourquoi? Parce que lui, sa place, c'est d'être chirurgien. Et le rabbi, il écrit à la personne, il dit, étant donné qu'à partir de Matan Torah, à Kadosh Baruch Hu, on est considéré comme des poissons, ouais. Un poisson dans l'eau. L'eau, c'est la Torah. Il peut se sentir bien, il peut se sentir vivre et libre que quand il est à l'intérieur, dans la mer, dans l'eau, dans l'océan. Il dit donc, à partir du moment où tu t'es pas assez rempli de Torah et de Mitzvot par rapport, comme on a dit, à ton potentiel, c'est à ce moment-là que tu te sens pas à ta place. Et les gens, ils pensent que justement, la Torah et les Mitzvot, c'est ce qui te fait des restrictions, c'est ce qui t'enferme. Adéraba, de la même manière que la plante, ouais, elle est libre à partir du moment où tu lui donnes du soleil, mais pourtant, elle bouge pas, elle est à son endroit. L'animal, il a besoin de bouger pour se considérer comme libre. Et ben, les Bnei Israël, s'ils ont pas le mode Torah ou Mitzvot, l'homme échané, ce que ça fait comme restriction ou comme concession dans ta vie, c'est qu'à ce moment-là où tu vas te sentir libre. En fait, en réalité, on n'aurait pas besoin d'autant de psychologues. Si les gens plongeaient leur tête dans le rouhani, dans le spirituel, ils se sentiraient vachement plus libres. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Zman Chirutenu, parce que le moment de Pessah, c'est le moment où on a commencé à marcher pour arriver jusqu'à la Torah et Mitzvot. Il y a un autre inyan de Zman Chirutenu. Zman Chirutenu, c'est écrit au pluriel. Comme à Simchat Torah, il écrit à Sukkot, il écrit Zman Simchatenu. Pourquoi il écrit Zman Simchatenu au pluriel? Parce que c'est la Simcha de Dieu et notre Simcha à nous. Ad Kedekar, que Dieu, Hachem, nous a donné une fête en plus pour nous dire caché à l'ail, pris d'Atrem. C'est dur pour moi que vous vous séparez, que vous repartez dans vos unanimes de tous les jours. Donc je vous donne une fête en plus. Shmini Atzeret, Nachon. No comment ben time. Anistarot l'Hachem Elokeinu. Ouais. Les faces cachées, c'est pour Hachem, et quand Mashiach va venir, on comprendra tout ça. Aval Bentaim, pourquoi ça s'appelle Zman Chirutenu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand on est en galoute, lui aussi il est en galoute. Magid Varav Leakov, Rukav Mishatav Israël, tout ce que Dieu fait au Bnei Israël, il le fait lui-même. C'est le meilleur exemple du monde. D'accord? En quoi Akadosh Baruch Hu, il est en galoute? C'est quoi la galoute? Vous savez c'est quoi la galoute? La galoute, c'est pas qu'il te manque d'efforts, c'est ça, c'est très fort. Parce qu'on a l'impression que la galoute nous affaiblit, que la galoute nous a pris des énergies, que la galoute nous a pris nos forces, que la galoute nous prend notre simcha. C'est faux. Le rabbi te dit, c'est pour ça que le rabbi a toujours œuvré pour que les gens dévoilent le potentiel au maximum qu'ils ont à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça qu'on a vu des histoires extraordinaires de shluchim qui pensaient qu'ils n'avaient pas la force. Il y avait une fois un chaliar, c'est mode manienne, je ne me rappelle plus du nom, mais un chaliar qui a écrit au rabbi que la shlichut est beaucoup trop compliquée. C'est dur au niveau Parnassa, c'est dur avec les gens, c'est dur avec tout, ouais. Et qui demande au rabbi de trouver un remplaçant et qu'il va le former, il va lui expliquer un petit peu comment elle marche la communauté et que lui, il s'occupe des signanimes avec sa famille parce que ça devient kaved, ça devient le fardeau du public, il est fatigant. Et le rabbi, il lui envoie une lettre avec son nom. Il lui dit, dans votre ville, il y a un Rav, un tel, donc il nomme son nom. Désolé, je ne me rappelle plus du nom. Ouais, il y a un Rav, un tel. Allez le voir de ma part. Il lui répond à lui, ouais. C'est comme si tu vois ta lettre, toi tu vois Aaron Bitton. Il y a dans ta ville quelqu'un qui s'appelle Aaron Bitton, ouais. Allez le voir de ma part et demandez-lui comment faire pour surmonter cela, ouais, et pour aller de l'avant et ne pas s'émouvoir de ce que le Yetzer Hara nous fait croire. Lui, maintenant, il reçoit la réponse. Il n'a pas envoyé chez un autre Rav pour prendre conseil, il l'a envoyé chez lui-même. Et là, il a compris. Le Rabbi, il a voulu lui dire, toutes les réponses, elles sont chez toi. Toutes les capacités de faire face à tout ce que tu es en train de me dire, c'est seulement chez toi. C'est à toi de faire une réintrospection avec toi-même et de voir que Bémet est ce chaliard, Baruch HaShem. Jusqu'à maintenant, il a chaliard et il a fait des mosdotes et des institutions extraordinaires. Et c'est ça que, en fait, le rabbi nous dit. Pendant la galoute, ne crois pas que tu as perdu tes forces en chemin. Pendant la galoute, tu as tout ce potentiel-là qui est chez toi. Aval. Aval. C'est quoi le aval? C'est caché. Et c'est pareil pour Dieu. Étant donné que Dieu il fait tout ce que nous, même Hatsav dans lequel on se retrouve, Akadosh Baruch Hu aussi. Il ne s'est pas amoindri dans la galoute. Il ne s'est pas rapetissi dans la galoute. Il n'est pas parti de la galoute, dans la galoute. Il ne s'est pas enfui nulle part. Nous, on a toujours l'impression que depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, qu'on n'est plus en mode Géoula. Ouais, en fait, tout est là, ouais, mais en potentiel. Tout est là, mais tout est caché. C'est pour ça que celui qui prend ça sérieusement, il peut passer la galoute. Et de la galoute, il rajoute un Aleph, il arrive en mode Géoula. Ouais. Et ça, c'est la Nekouda que le Rabbi veut nous enseigner. On a cette capacité de dévoiler chez nous des forces qui sont ensophiques, des forces qui sont infinies. C'est juste à toi de comprendre que c'est juste caché. Quand tu rentres dans une pièce et que tu joues à cache-cache avec ton papa, ouais, et que tu ne le trouves pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la pièce. Ouais. Tu ne l'as pas trouvé. C'est à toi de le chercher. Et bien, c'est exactement pareil à l'intérieur de toi. Des fois, tu penses que tu n'as pas la force de, que tu n'as pas la capacité de. Si tu cherches, c'est là. Si tu cherches, tu ouvres les bonnes portes, tu verras que Bezrat Hashem, tu arrives même à aller de l'avant. Ça, c'était pour le Inyan de Zman Chirutenu. Et bon, Hashem, je vois que le temps il passe vite et qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, pour continuer, dans le Manishtana, on va avoir plusieurs phrases qui sont intéressantes. On va avoir Manishtana Laila Azé, le Inyan de la Matzah. Ouais, Kulo Matzah. Toute l'année, on mange. Avala Laila Azé, Kulo Matzah. On va avoir le Inyan aussi de. Le nien du Maror, n'achon? Kulo Maror, c'est quoi cette histoire de Maror? On va voir aussi Ben Yoshvim ou Ben Mesubin. Et on va voir aussi Anu Madbilim. Ouais, Afilupa Amachat, Alaïla Aze. Et c'est quoi cette Nekuda là? Le Rabbi explique, c'est le Admor Azaken. Il a mis dans le Noussar du Manishtana un truc très intéressant. C'est que le nien de Anu Madbilim, il l'a mis en premier. Maintenant, si tu prends le nien de Anu Madbilim qu'on trempe en réalité dans l'eau salée. Juste pour que les enfants ils posent la question, parce qu'en fait la vraie raison de pourquoi on fait ça, c'est juste pour que les enfants ils posent la question, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi vous mettez de l'eau dans le sel avec et le rabbi dit c'est complètement fou de commencer par en réalité par ça. Commençons par la matza, parce que c'est d'oraita. Qu'est-ce que tu veux enseigner aux enfants? D'abord le plus important c'est d'oraita. Ensuite il y a des rabbanan, l'inyan du maror, c'est les chachamim qui ont enseigné ça. Ensuite, l'ignan de Mesubim, l'ignan de s'accouder pour boire. Tu me commences par l'ignan le plus éphémère, non, c'est comme ça qu'on dit, ouais, le plus futile, l'ignan du minag. Et le rabbi dit comme ça. Le Admour Azaken, il a voulu t'enseigner dans la Gada, et ça, c'est très, très important. Souvent, on est mesalzel dans le minag, on est mesalzel dans les coutumes. On se dit, aïkar que mon fils, je lui apprends ce qui est des oraita, ce qui est des rabanan. Les choses qui sont importantes, je ne vais pas lui prendre la tête avec un minag. Bien sûr qu'on parle de minag, il y a des minags qui ne sont pas fondés. Il y a des minagim qui ne servent à rien même. Ouais. Mais les minagim qui sont fondés, que les bénis Israël ils ont pris sur eux, comme par exemple aujourd'hui personne ne se dirait que de tremper l'eau dans le sel c'est un minag. Aujourd'hui c'est devenu tellement reglek miaïnyan. Donc les vrais minagim, le rabbi te dit que c'est là-bas que tu dois mettre l'accent. Pourquoi? Parce que le jour où cet enfant-là il va se retrouver dans la rue, ce qui va le retenir, ce qui va lui faire comprendre qu'il est différent, ce qui va lui faire comprendre que lui, c'est un enfant pratiquant ou dans la Torah, c'est pas ce que tu leur as raconté des Oraita, c'est pas ce que tu leur as raconté des Rabbanan, c'est Davka les Minagim. Et tu vois, même les enfants qui ont des fois quitté le chemin et qu'ils se marient avec une femme moins pratiquante, verroulée, à la table de Shabbat, même s'ils font plus Shabbat, ou même s'ils font plus certaines choses, les Minagim, ouais. Le minag de prendre le verre de kiddush comme ça, ou de prendre la challah comme ça, ou de faire comme ça, tout dépend ce qu'il a vu chez son grand-père et chez son père. Dafka ça, il est attaché. Il dit grâce à ça, il a la possibilité un jour de revenir, ou il a la possibilité déjà, Birklal, de pas tomber tellement il est attaché. Donc le rabbi, il apprend de là dans l'éducation des enfants. C'est important d'être à cheval sur les minagim. Bien sûr, attention, il y a aussi une parenthèse. Des fois, les gens, pour les minagim, Ils balancent des trecha, ouais. Ouais, ils se mettent en colère. C'est pas comme ça le minhag chez nous. C'est pas comme ça le. Et ils deviennent fous et roulent. Ils abîment toute la table de Pessah, toute la table de. Et y a, calmos, calmos. Ouais, faut se calmer. Il faut prendre tout en proportion. Akol bedarke noam, akol bedarke shalom. Ton fils, il a pas fait comme tu voulais. Ou tes invités, pas besoin de t'énerver. C'est le mieux avec un ton sympathique et en expliquant. On arrive à tout unanime. Pareil, il y a des fois avec un couple. C'est pas mon minag, c'est mon minag, c'est pas mon minag, c'est comme ça que mon père y fait, c'est pas comme ça, mais ton père y fait n'importe quoi, mais c'est pas, hein, pas besoin de s'exciter, que chacun y fasse ça, bedarke shalom, bedarke noam, et comme ça, bezrat Hashem, on arrive à la goula, mitzvah Hashem, donc d'où l'importance de mettre les minagim en avant, et Davka à Pessah, c'est rempli de minagim. Ok.
Le plus important, c'est que l'enfant pose la question ou que les parents donnent la réponse.
Oh, Chazak. Il y a vraiment un inyan. Et ça, c'est tout le inyan de Pessah. Le vrai inyan de Pessah, tu es obligé d'engendrer aux enfants des questions. Tu dois tout faire pour que tes enfants y posent des questions. Même si tu l'emmènes à ça, tu lui dis, tu trouves pas ça bizarre que ce soir, on met de l'eau et du sel et qu'on trempe, tu sais pourquoi? Ouais. Emmène-le toi-même. Il va dire, non, je sais pas pourquoi on fait ça. C'est le vrai inyan de Pessah. Des fois, hein, bon, tout le monde court pour Shulchan Orer. Ouais. Tout le monde va arriver vite à Shulchan Orer. Chacun il mange les repas. Ouais, vas-y, toi tu lis vite. Ah, vas-y, fais. Toi tu vas faire le petit relais que toi tu lis doucement. Non, il y a un vrai nian. Il faut s'arrêter, d'accord, de pas être non plus kaved. On t'a pas demandé de traduire en arabe, en français, en araméen et en hébreu. Ouais, la Haggadah. Soit détente. Chaque piska, tu peux expliquer Begadol. Ça parle de quoi? Et t'avances comme ça, et surtout s'arrêter et engendrer aux enfants. C'est un vrai inyan d'éducation. Mais gata li bincha, tout le inyan de Pessah, tout le inyan de la Gada, c'est pas pour que les grands, ils montrent à toute leur famille comment ils savent lire la Gada, ouais, ou comment ils savent chanter la Gada. Tout le but, c'est les enfants ce soir-là. Donc très important aussi, de, comme j'ai dit, de pas trop traîner pour se mettre à table, pour pas que les enfants ils soient fatigués. C'est dommage, sinon on va louper s'il reste que les adultes. Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, à un moment dans la Gada, il va y voir écrit. Donc on avance un peu comme ça dans les piscottes. Il y a écrit Ve'ilu lo tsi akadosh baruch hu itavotenu mitzrayim meshuvadim hayinu leparo bemitzrayim. Si Dieu nous avait pas sorti d'Égypte, on aurait été encore sous l'emprise de Paro. Et là il y a une question. Il y a deux questions. La première question, c'est que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu nous as promis que tu allais nous sortir d'Égypte. Tu nous as envoyé là-bas en disant 400 ans, vous allez être zar, ouais. Vous allez être étranger dans un pays. Donc de 1, si tu peux pas me dire si tu nous avais pas sortis, parce que avant qu'on soit rentré, tu nous avais déjà dit qu'on allait sortir. Ça, c'est de 1. La deuxième question qu'on se pose sur cette Nekoudalap, Paro, il n'existe plus. C'est-à-dire quoi? Si tu nous avais pas sortis, on serait encore les escaliers. Si tu nous avais pas sortis, bon, on serait resté en Égypte. Ok. Après, chacun, il aurait fait sa life. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait avec le président égyptien, mais on serait pas avec Paro. Ouais, c'est pas Paro. Donc, il sort d'où ce Paro-là? Le rabbi il explique qu'en réalité, au moment où on est sorti d'Égypte, la clipa de Paro nous a suivis. Ça veut dire qu'en réalité, on pense que Paro il a été mis KO le jour de la sortie d'Égypte, mais c'est faux. Au moment où on est sorti d'Égypte et que Dieu nous a pris de là-bas, Paro nous a suivis, la clipa de Paro nous suit. Hâte qu'il y ait des cartes que le rabbi nous dit que la clipa de Paro nous suit à chaque seconde jusqu'à maintenant. Et c'est Ilulo Tsakadosh Boko et Avonte Nou Mitzrayim. Si c'était pas Dieu qui était là à chaque instant pour nous empêcher, c'est notre clipa encore, pour nous empêcher que Paro reprenne le dessus sur nous, on serait encore les esclaves de Paro spirituels et non matériels. Paro, comme on sait, c'est quoi toute la nienne de Paro? Paro, hein? Mitzarim Vekvulim. C'est ce que l'homme aujourd'hui, le symptôme que l'homme souffre le plus, c'est de lui faire croire. Comme on a dit juste avant, pour ça que tout est cachour, qu'il n'a pas la possibilité. C'est Yetzerara, qu'il n'a pas la capacité. C'est des clipotes. Le Yetzerara, il utilise plusieurs clipotes. La clipate Amalek pour te refroidir. La clipate Paro pour te mettre des barrières. Ouais, te décourager. Comme on sait que Mitzrayim, c'est Milachon, Metzarim. Donc, c'est mettre des barrages. C'est mettre des barrages. Dans la vie, plein de fois, tu veux te lancer, tu veux, et hop, tu te mets un barrage tout seul. Ah, mais je sais pas que. Ouais. Ah, mais c'est. Comment?
Croyance limitante.
Croyance limitante. On peut appeler ça, comme ça. Mais la Nekouda, elle est comme ça, Bémet. À chaque fois que dans la vie, tu penses que c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop loin. Combien de fois, vous savez, combien de fois les gens aujourd'hui ils sont dans la nostalgie. Ah, tu sais, une fois on m'avait proposé ça, je suis bête. Je sais pas pourquoi. J'ai pris trop de temps pour réfléchir, j'ai pris trop de temps pour prendre ma décision, j'ai pris trop de temps pour faire ci, j'ai pris trop de temps pour faire ça. Verroulé, aujourd'hui, dommage, j'ai perdu beaucoup d'argent, et puis dommage, j'ai pas pu faire ça, dommage, j'ai pas mis mon enfant dans cette école parce que bon, je pensais que c'était. Hein. Toutes ces façons de penser qui nous empêchent d'avancer et d'essayer, en réalité, c'est Paro. C'est Paro qui te fait croire aussi que t'as pas la possibilité d'être un grand de la génération, que t'as pas la possibilité d'étudier la Torah comme tu voudrais, ouais. Ce paro-là, il vient, il se cache, il est tout le temps en train de nous suivre. Et c'est Hachem à chaque fois qu'il le bloque. Et si Hachem ne le bloquait pas, ouais, ben on serait chlet. La deuxième réponse par rapport aux histoires des 400 ans, c'est qu'en réalité, le Shlach HaKadosh, il nous dit, les Égyptiens, ils ont tellement influencé les Béné Israël, va'yiru otam amitzrim. C'est quoi va'yiru otam amitzrim? Milachon ra, comme ça il dit le Shlach HaKadosh. Ils ont rentré le mal en nous tellement profondément, en réalité, que Bichlal, on n'aurait même pas voulu sortir. C'est arrivé les 400 ans, Hachem, il serait venu, on aurait dit, non, c'est bon. Hein? Non, c'est bon, on est bien, on est bien en Égypte. Donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il te dit, même si je t'avais promis que j'allais te sortir de là-bas, j'étais obligé d'intervenir pour te sortir parce que le mal, il avait tellement pénétré à l'intérieur de toi hein, que tu n'aurais même pas voulu toi-même sortir.
L'idée de
hein? Tic-tac, nakhon. Il faut vite se barrer avant que c'est la fin des haricots. Maintenant, juste, on continue. Baruch Hashem, je vois que ça avance bien, bien. Et il y a tellement de trop. Je vais te dire. Bon, on va essayer de dire.
Les
4
enfants,
on y arrive. Ouais, sur les 4 enfants, on y arrive. On va pas développer les 4 enfants parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Juste, il va avoir une mimra qui est très bizarre dans la Haggadah. La mimra qui a yuvayu mais sa prime yetsiat mitzrayim kol oto alalea ad shebut almideem v'amru laim raboteinu igi azman kriat shema shel shacharit. Une histoire bizarre. Les tanaïm akdoshim. Je vous rappelle c'est quoi les tanaïm, ouais. C'est Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, ouais. Donc, les élèves ils viennent et l'histoire elle te raconte qu'ils ont tellement traîné dans la Haggadah, ils ont tellement raconté dans la Haggadah qu'ils ont failli louper le zman kriat shema de shacharit. Le Zman Kiryat Shema de Shacharit aujourd'hui par exemple, pour le Gras et pour le Baal HaTanya, il est aux alentours des 9h30 si je ne me trompe pas. D'accord ?
3h après la lune du soleil.
Ah. Ouais, c'est une machloquette, c'est combien 3h, combien 4h, verroulé. On ne va pas rentrer dans ça parce que c'est un Yannil Krati. La Nekuda, elle est 2 secondes. On parle d'un Tana. Un Tana. Est-ce que tu pourrais imaginer que Rav Ovadia Yosef, il oublie Chas Veshalom de faire Kiryat Shema.
Oui.
Ouais, tu racontes toute la nuit, tu vois que le jour il s'est levé, tu fais Shema Israël, pas shoot, et tu reprends ta Haggadah, il n'y a aucun problème. Et là les élèves ils viennent en panique, ils disent Raboteinu, s'il vous plaît, Shema Israël. Ouais. Et d'un coup ils se mettent à faire Shema Israël et ils remercient leurs élèves, merci, on a failli se louper, ils ont de Raita, ouais. Nous a de Horaïta les Rachamim, il y a Tzasraro Befsedo, tu t'assois à faire la Haggadah pour louper un chemin Israël. Et là, le Rabbi donne une explication extraordinaire. Il dit qu'en réalité, c'est quoi Messaprim, c'est Milachon, Sapir. Sapir, c'est un joyau, ouais. Ça parle quand on parle d'une pierre précieuse qui illumine. Le saphir, Milachon, ouais, Sapir. Et il dit qu'en réalité, les Rachamim Beotolaïla, ce qui s'appelle Botolaïla, la nuit, ils étaient en train de faire descendre des lumières extraordinaires. Et comme leur kélim, ils étaient énormes, la lumière qu'ils ont fait descendre n'était pas encore suffisante pour les remplir à eux. Donc en fait, on parle de spiritualité. En fait, ils étaient encore en mode Laïla. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait attention que le jour s'est levé. Et quand les élèves y viennent et ils disent « Eh, oh, il y a déjà trop de lumière, on est à la limite de la fin du chemin Israël. » Ouais. En fait, les Talmidim, ils ont voulu dire « Chez nous, il fait jour. Avec tout ce que vous avez dévoilé ce soir, ça y est, le jour s'est levé. C'est plus la nuit, c'est plus la galoute, c'est la Géoula. » Et là, ils disent « Oh, Nachon. » Et ils se mettent à faire le chemin Israël. Et le Rabbi, il enseigne quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi dit comme ça, qu'en réalité, des fois, tu penses que de prendre du temps avec un autre, d'aller influencer un autre qui n'a pas ton niveau, ouais, au niveau spirituel, eh ben c'est une perte de temps, Chas v'Shalom. Il dit, regarde les élèves, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur rabbanim. Vous pouvez maintenant même vous lire le Shema Israël, que comme parce que vous nous avez éclairé qu'il fait jour chez nous, maintenant même chez vous il fait jour. Et là, de là, le rabbi il enseigne une histoire extraordinaire. Bémet, quand t'es chaliar, tu peux t'asseoir devant un livre et prendre beaucoup plus que si tu vas t'asseoir avec un juif qui connaît pas encore c'est quoi Shabbat, c'est quoi encore Kashrout, c'est quoi encore ça. Et là, tu dois venir et expliquer. Oui, Nahon, mais je peux prendre une chavruta d'un haut niveau, et là-bas aussi je pourrais engendrer un chidouche.
C'est pas la même chose, par sa mimoute et par sa façon.
Nahon, mais pour le moment, si j'ai la possibilité de prendre une Gemara et de finir une Maserhet, ouais, ou de m'asseoir sur Kitsur Shulchan Aruch, à ce moment-là je peux avoir la troucha, ouais, que je suis en train un peu de perdre mon temps. Quoi ?
On doit savoir.
Donc,
la finalité.
Mais le Yetzer, il est quand même là.
Et ça, ouais. Ça t'aide à comprendre mieux.
Ah, il dit Malécha, la Lechet et Sayel ou Diacher. Les corvaux, les Sayel et Avodato. Ayetia, Mimitraim, Shelo. Allo, Yodea, Taetev, Kinecha, Chakwa, Deyamog, Mimitraim, Michelcha. Arkan, Anu, Roim. Des fois, même, tu te dis autre chose. Tu te dis que je suis déjà, moi, en Égypte. Moi, je vais aller sortir un autre d'Égypte. Déjà que je me sors d'Égypte. Déjà que moi, je suis au niveau. Ça, c'est la fausse modestie. Parce que le rabbi nous a toujours dit, tu as appris Aleph, tu enseignes Aleph. Donc, ne te fais pas la fausse modestie. Ah, moi, qui je suis pour. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Ça, c'est Paro. Paro, il te dit, qui tu es, toi, pour. Tu dis, moi, je suis qui? Moi, mon père, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je peux. J'ai la capacité. Qui kacher yudi mesayel ezulato, ou mevilo or, areze mevil shlemut gabba avodato. Quand tu allumes un autre, quand tu éclaires un autre, c'est le meilleur moyen d'être toi-même éclairé. Les Tanaïm, ils reçoivent la réponse de leurs élèves. Nachon, qu'à votre niveau, vous n'êtes pas encore assez rempli. Ouais. Mais étant donné que vous nous avez remplis, c'est suffisant pour faire le chemin Israël. Maintenant, on comprend la Mimra, hein, de comment c'est possible que les Tanaïm, ils ont failli Chas v'Shalom, qui vient pas se louper, ils n'ont pas failli se louper. C'est un Inyan beaucoup plus spirituel qu'on pense. Vous savez, une fois, hein, Rav Moula Zimov, il a dit, un chassid, ça doit être un balai. Un chassid, ça doit être un balai. Un balai, ouais, c'est pas super, hein, un balai. Et il a expliqué dans Farbringen,
un balai,
ouais. Un balai. Et il a expliqué dans Farbringen, il a dit comme ça, t'as déjà vu un balai,
un balai
qui nettoie le salon, mais dès que tu l'emmènes vers les toilettes ou la cuisine, il te dit non, ouais. Non, je veux pas aller là-bas. Ah, il dit non, le balai tu le prends, tu nettoies ce que t'as besoin. Même l'extérieur de la maison, même le jardin, même des fois la rue. Et il ferme sa bouche. Il dit rien, il fait ce qu'il a à faire. Il y a un chassid, ça doit être un balai, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, Bémet, même nous, on va avoir le choix de choisir où j'influence. À qui je vais parler de Torah? À qui je ne vais pas parler de Torah? Parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça peut être un Kaal, ça peut être une communauté, ça peut être une assemblée. J'ai pas la force. Ouais. Eux, ouais, ils sont intéressants. Ils sont à l'écoute, ils sont intelligents. Laisse-moi, moi, faire une conférence à Bar-Ilan et me donne pas une conférence dans une petite synagogue, dans une ville comme ça, où les gens, ils sont un peu amcha, ils sont un peu simplés. J'ai pas le temps, j'ai pas la force, c'est un peu compliqué. Quand il te dit tu dois être un balai, n'importe quel endroit où on t'appelle, tu dois y aller. Et une fois, mon HP, il m'avait raconté une très belle histoire. C'était juste pendant le Inyan de... Je ne me rappelle plus c'était quelle période. Mais il y a un ami à lui, il finit un Farbringen, il l'appelle, il lui dit, écoute, il faut absolument que tu viennes. Je crois que c'est à Batiam ou à Khulon. Il y a là-bas un Farbringen, il n'y a personne pour parler, il y a plein de jeunes. Je te prends. Il dit, ok, viens me chercher à la maison. Il est déjà minuit. Il vient me chercher à la maison. Et l'autre, il le voit rentrer dans des ruelles, dans des trucs un peu pessus comme ça. Il se gare. Il descend dans un bar-tef, et d'un coup, ils voient de la fumée. Ouais. De la fumée, ils sont tous en train de fumer là-bas à l'intérieur, avec des piercings, des cheveux comme ça en l'air. Il dit à son copain, il dit, mais t'es fou. Mais laisse-moi, je vais dormir à la maison, qu'est-ce que tu m'as là? Il dit, mais non, c'est des bons, c'est, ils sont extraordinaires, vas-y, viens, tu vas voir. Il s'assoit et lui, il me raconte qu'il n'est pas dans son ambiance. Je vais parler de quoi maintenant? Je vais leur parler de quoi? De Hatzilut, Bria, Yetzira, des mondes supérieurs, des mondes célestes, des anges, je vais leur raconter quoi? Ouais, on va pas parler de politique. Donc il dit, j'ai prévu un plan de contre-attaque, que je vais faire croire que ma femme, elle m'a appelé, ouais, que je reçois un appel, j'ai envoyé un message à quelqu'un, je lui dis, vas-y, appelle-moi Dakhouf. Et je sors et je dis, je suis désolé, je suis obligé de partir. D'accord? Et là, au moment où il commence à faire son plan, il se rappelle qu'il a lu une sira. Que le rabbi, il dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire Dira Betartonim. Dira Betartonim, lui faire une maison. Maintenant, si tu prends un kablan qui te construit ta maison, et il te fait une maison extraordinaire, de la piscine au jacuzzi, au sauna, jusqu'à l'intérieur de la maison, les meilleurs matériaux, la maison, un palais. Et tu rentres, et tu te rends compte, pire que ça, tu te rends compte qu'il a oublié de faire des toilettes. Il a oublié de faire une salle de bain. Ouais, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Même si c'est la plus belle maison, tu n'iras pas habiter là-bas. Tu rentreras pas ta femme et tes enfants dans une maison où ils ont besoin d'aller dans le jardin pour faire leurs besoins. Ouais, tu vas lui dire quoi? Tu rigoles ou quoi? Tant que tu ne me fais pas cette pièce-là, attention, je suis pas en train de comparer certaines personnes à des toilettes ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire qu'il y a des endroits dans le monde où tu n'as pas envie d'être là-bas. Hein. Parce que tu as l'impression déjà que c'est des toilettes. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit quoi? Il te dit, quand je t'ai demandé de faire une maison d'Irab et Tartanou dans ce Olam Hazeh, je t'ai pas demandé de décider quelle pièce tu allais me faire. Un beau salon, un beau séjour, une belle piscine. Je t'ai demandé de me faire une maison. Donc quand des fois il faut se salir les mains, quand il faut aller dans des endroits qui te plaisent moins, ça peut, les toilettes, ça ne représente pas une certaine population. Les toilettes, c'est par rapport à tes perceptions. Par exemple, quelqu'un. Quelqu'un, ouais, la chose que tu as le moins envie de faire, la chose que tu as le moins envie de nettoyer ou de t'occuper, ça peut être que des gens extraordinaires, mais à tes yeux, c'est comme t'occuper malheureusement des toilettes pour toi. Il dit, si tu es dans ce matzav-là, tu n'as rien compris c'est quoi faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et lui, il réfléchit à ça. Il dit, pour moi, à ce moment-là, on m'a rentré comme dans des toilettes, j'ai rien à faire ici. Il dit, quand il s'est rappelé de cette sikha-là, il a posé son téléphone, il a dit les Chaim. Et ils ont fait un Farbrengen extraordinaire. Il a dit, un des meilleurs Farbrengen que j'ai fait de ma vie. Ils étaient là, ils ont chanté avec eux, on a dansé avec eux, on a parlé de sujets extraordinaires. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est toi des fois qui décides. Et c'est encore une fois Paro qui vient, qui te fait croire que... Ouais. Et c'était ça, la Nekuda, de être un balai, savoir influencer les autres et donner quand il faut donner. Tu as l'obligation, si Dieu t'a mis ça sur ton chemin. Et comme ça, tu arrives à faire rouler. Maintenant... Pour le Ben. Dans le nian du Ben, on va parler du rachat. Le rachat, il n'est pas si catastrophique que ça. Ouais.
Il est déjà à table.
Il est déjà à table. On sait que le rabbi, il a parlé du Ben Khamishi, le cinquième fils qui n'est pas là. Vous vous rappelez, je vous ai raconté une fois qu'ils sont venus avec une atza, avec une proposition de mettre une chaise vide à chaque table de Pessah en commémoration avec tous les juifs qui étaient encore en Russie, certains aussi pour les juifs de la Shoah qui sont partis. Donc, qui ne peuvent pas fêter Pessah. Donc, on est là et on pense à eux, que nous, on est en mode Géoula et eux, ils sont encore en Galoute. Et le rabbi, il a dit, c'est sympathique votre idée, mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est quoi le but que la chaise, elle reste vite? Si vous voulez réellement faire du Nachat à Dieu, alors justement, allez chercher le cinquième fils. Lequel fils? Qui n'est même pas Racha. Qui n'est même pas au CEDER, qui n'en a rien à cirer du CEDER, ouais, et ramenez-le à la table de Pessah. Si vous voulez vraiment faire une bonne action, le juste de mettre, faire une cérémonie avec une chaise vide. Donc, on a le rachat. Le rachat, il n'est pas si catastrophique, vous savez pourquoi? Parce que le rachat, il parle. Le rachat, il s'énerve. Le rachat, il contredit. C'est quoi ce que vous êtes en train de faire? Le pire, en réalité, c'est le Sheno Yodea Lishol. Ouais. C'est quoi Sheno Yodea? Il a Shon Da'at. Enno Da'at. C'est-à-dire, il est là. Mais ça l'intéresse même pas ce que tu fais. Il n'en a rien à cirer. Donc il y a beaucoup de sirotes du rabbi qui parlent sur le nian de Sheno Lo Yodea Lishol. Mais par rapport au rachat, il y a quelque chose de malmanien. Il se retrouve où le rachat?
À côté du
rachat. Et ça rejoint ce qu'on vient de dire par rapport. Alors le rabbi il explique qu'à la base, les quatre enfants représentent les quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc normalement, on aurait dû avoir dans l'ordre chronologique le chacham, le tam, le Sheno Yodea Lishol. Et le rachat. Et pourtant, le CEDER, il a complètement changé. Parce qu'en fait, il t'explique le Rabbi que tout le rôle du Chacham, ouais, c'est d'être à côté du Racha. C'est de l'enseigner. C'est de l'aider. C'est pour ça qu'il y a écrit Echad Chacham, Echad Racha, Echad Tam, Echad Sheino Yodeh Lishol. Pourquoi tu as besoin de me dire Echad? Kenegad Arba Banim Dibra Torah, Chacham, Racha. Pourquoi tu as besoin de me dire Echad Chacham, Echad Racha, Echad.
Il dit parce que. Unique.
Parce que. Pas seulement parce qu'ils sont uniques. Il veut te dire que tout, chacun d'entre eux, il a le Echad. Il a le Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, n'importe quelle catégorie de personnes que tu vas rencontrer, il a ce Echad. Et si tu comprends qu'il a ce Echad-là, alors tu es prêt à travailler. Tu es prêt à avancer. Tu es prêt à faire. Quand tu crois qu'il est complètement déconnecté, et qu'il est athée, et qu'il n'y croit pas, bon, qu'est-ce que je peux faire, mon problème ? Qu'il se débrouille. Il fait Tchouva, Bezrat Hachem. Ouais, il se contente de cette. Cette phrase, je prierai pour lui pour qu'il fasse Tchouva. Non, il a le Echad. Est-ce que toi, tu as cette capacité-là hein, de dévoiler le Echad chez lui? Plus que ça, hein, y a une particularité sur le Racha. Le Racha, il écrit Iloa Yasham, Loya Nigal. À l'époque de l'Égypte, on lui dit carrément dans la Gada, toi, en Égypte, tu ne serais pas sorti, tu serais mort. Hey, c'est comme ça que tu fais faire Tchouva aux gens? Toi, on te dit, Chacham, influence le Racha pour le faire avancer. Et d'un côté, tu lui dis, Baba, toi, en Égypte, tu serais mort. Tu ne serais pas sorti. Tu serais resté en maca trop cher. À mon avis, tu vas le faire fuir de la table.
Hein? C'est de ta beauté.
Quoi?
Si tu avais été vraiment Racha, tu ne serais pas sorti. Donc, tu n'es pas Racha.
Ah. Alors, le Rabbi, il est médaillé sur le Mila Hacham. Il dit, Ilu Hayait Hacham, à l'époque de l'Égypte, toi, tu ne serais pas sorti. Aval maintenant qu'on a reçu Matan Torah et que Dieu il a dévoilé à chacun d'entre nous notre Neshama, aujourd'hui même comment tu parles, même comment tu es, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de toi. Akadosh Baruch Hu va t'aider. Donc dans la Haggadah on a l'impression que en fait on est dur avec le Racha, en fait on n'est pas dur, on est juste en train de le dire. Lui dire que même dans ce Matzav là, il a la possibilité, il a de l'espoir. Et pas seulement il a de l'espoir, c'est sûr qu'il sortira comme il a dit le Rabbi que Mashiach quand il va venir. Il ne va pas venir que pour les tzadikim, il va venir pour tout le Am Israël.